Oui, bonjour. Je vous laisse ce petit message pour m'indigner, pour passer un coup de gueule contre votre radio France Inter, car c'est une radio socialo-communiste, marxiste et anarchiste. Je m'en explique. Vous ne vous gênez pas pour afficher clairement vos opinions, car vous critiquez... Monsieur Sarkozy clairement en direct à l'antenne. Deuxièmement, 9 messages sur 10 sont que vous passez à l'antenne sont hostiles à Monsieur Sarkozy. Donc vous avez très bien sélectionné vos messages. Troisièmement, vous vous indignez contre l'ordre établi, contre la police, mais je vous explique que s'il n'y aurait pas de police dans ce pays, ce serait l'anarchie. Mais bon, ça vous arrangerait bien, vous êtes contre la police. Donc voilà, bah écoutez, je ne pense pas que mon message sera diffusé à l'antenne. C'était Jérôme Dexébin.
Salut à toute l'équipe, c'est Jean-Pierre, délégué CGT de l'entreprise Pile 8 à Meun-sur-Yèvre, où Sarkozy nous a rendu visite hier. Alors d'abord, je salue les copains du Sancerrois qui ont été refoulés par ses sbires, ainsi que les copains de la CGT d'une boîte de Saint-Florent qui ont été aussi repoussés à l'entrée de notre usine. Alors nous, la tactique, on avait choisi de rester à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir lui poser des questions. J'ai eu la chance, si on peut appeler ça une chance, mais enfin bon, j'ai pu m'exprimer. Et notamment à la question, quand on lui a expliqué qu'on était dans une entreprise où la plupart des gens étaient payés au SMIC, je dirais de père en fils depuis presque 200 ans, quoique il y a 200 ans le SMIC n'existait pas, mais les salaires étaient déjà très bas, la seule chose qu'il a su répondre, qu'il a su nous dire, c'est « Eh ben les gars, si vous voulez gagner plus, il faut travailler plus ». Alors il nous a bien démontré qu'en travaillant 50 minutes de plus par jour, on augmenterait nos salaires de 15%. C'est pas formidable ça ? Et puis il faut dire aussi qu'il a fait un comparatif entre les gens qui ne se lèvent pas le matin pour aller bosser et puis les gens qui vont bosser et qui en fait n'ont pas plus de choses dans la vie. Alors je me suis permis quand même de lui dire que pour construire un pays uni, je pensais que c'était pas en montant les gens les uns contre les autres qu'on allait y arriver. Enfin je pense que j'ai réussi un petit peu à le déstabiliser. Et puis je pense que ma plus grande récompense, eh ben, ça a été que mes copains et mes copines, mes collègues de travail depuis 27 ans, parce qu'il y a 27 ans que je suis dans l'entreprise, ils avaient l'air d'apprécier ça, j'en suis content. Mais bien sûr, ce que j'ai dit, c'est pas passé à la télé ni dans les journaux, bien évidemment. La lutte continue, salut.
AMG du Poitou, bonjour, vendredi 2, c'est le premier vendredi du mois. On se retrouve à Clazé, chez Léa, au Petit Clazé, à 19h, salut.
Oui, bonjour, je viens d'écouter l'émission sur les grandes surfaces, en l'occurrence Casino. Ah, je suis content, très content, parce que ça fait seulement 15 ans que j'attendais une émission comme ça, étant donné que j'ai créé, moi, mon entreprise, un petit commerce d'informatique à Juvisy-sur-Orge, dans les années début 90. Et j'avais seulement, dans un rayon de 10 km, comme a dit un élu qui subit les grandes surfaces à Limoges, une densité effroyable de grandes surfaces. Déjà en 90 dans l'Essonne, dans un rayon de 10 km, c'était bien plus que 6 ou 7 grandes surfaces que j'avais en concurrence avec moi, petit commerçant, petit chômeur, à qui à l'époque Rocard m'avait incité à créer mon entreprise en proposant, je sais plus, 20 000 francs, 40 000 francs d'aide à la création d'entreprise. Je dis ça pourquoi ? Parce que on sait bien que les agriculteurs sont tous décimés, pire que les poilus pendant la guerre de 14. Les chômeurs qu'on incite encore aujourd'hui à créer leur entreprise, ils vont être confrontés, si leur entreprise est un petit commerce, à cette effroyable mafia. Alors, je voudrais dire aussi que dans les petites entreprises, les petits commerçants, il y a des libraires encore protégés par une loi qui impose un minimum de marge. Je crois que c'est 5%, c'est ridicule. Je veux dire que demain matin, n'importe quel candidat à la présidence de la République peut ajouter dans son programme que les grandes surfaces seront obligées de pratiquer une marge minimum de 10%. Ça veut dire quoi, clairement ? On cause du prix coûtant. Le prix coûtant, il est, malgré les quantités, etc., c'est ridicule les différences de prix. Quelqu'un qui a une petite boutique, il va commander 5 ordinateurs, par exemple, à IBM, il va les payer quasiment le même prix que la grande surface. La seule différence, c'est que la grande surface peut revendre à prix coûtant, elle a le droit, alors que le petit commerçant, lui, il lui faut au moins 10-15% de marge, ne serait-ce que pour payer ses charges et vivre. Voilà. Donc, si demain matin, on obligeait les grandes surfaces à avoir une marge minimum de 15%, le petit commerce pourrait vivre. Voilà. Ça, c'est une idée que je peux expliquer. Voilà.
Salut Daniel, dans le cadre de tes émissions contre la grande distribution, je suis un habitant de Sauve, un petit village dans le Gard, un petit bourg médiéval très joli. Et nous sommes menacés à l'heure actuelle par l'ouverture d'un ED Discount à l'entrée du village. Alors on est furieux, on est nombreux à vouloir résister à ce projet stupide. Et on organise une conférence sur le problème de la grande distribution, celle qui dévore et décime l'économie locale, avec Christian Jacquiot, donc ton invité d'hier, enfin ou d'aujourd'hui. Et c'est à mon avis le meilleur spécialiste de la question. Alors voilà, notre réunion, ce sera le 5 avril à Sauve, donc à 19h. Et voilà, si tu peux passer cette annonce, parce que nous, on est prêts à tout faire contre la grande distrib, là, ça tue tout le monde. Salut Daniel, merci pour ton émission.
Je profite de votre répondeur pour rebondir sur l'émission concernant la grande distribution à Limoges. Sur Nantes, le réseau de tramway qui fait la fierté du maire PS Jean-Marc Ayrault a la particularité de voir la quasi-totalité de ses terminus finir auprès des centres commerciaux Leclerc. Le commerce de centre-ville ne représente plus que 8% de l'activité commerciale totale, à opposer aux 25% de Bordeaux et aux 40% de Strasbourg. Les petits commerçants nantais se font complètement bouffer par ces grands complexes sans que l'opinion ne s'alarme. On peut de plus se demander si Ayrault, déjà condamné pour abus de biens sociaux dans les années 90, ne profite pas de ce système. Alors en voyant tout ça, je trouve qu'il est difficile d'imaginer faire confiance, que ce soit aux candidats de droite et de gauche, à qui profite ce système à gros sous. Voilà, merci.
C'est Philippe de Lyon, Daniel, de parler comme ça de la grande distribution à l'heure actuelle. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de le faire. Donc je voulais tirer un coup de chapeau. Et moi, je me souviens de mon père qui avait une charcuterie dans la banlieue de Lyon, il y a ça, 27 ans à peu près. Et déjà à l'époque, il disait que la grande surface, les grandes surfaces et la grande distribution en général, ça allait être une plaie pour notre pays. En gros, c'est ça. Mais j'exagère à peine. Hein. C'est une vérité. Hein, parce que c'est exploiter les gens, mais dans tous les sens du terme. Et moi, je suis à mon compte dans le transport et on se permettrait, la plupart des artisans ne se permettraient même pas un dixième de ce que les grandes surfaces font. Hein. Voilà. Bah écoutez, continuez les émissions comme ça parce que c'est fantastique. À bientôt.
Ouais, on disait mamie écrase les proutes à l'époque. Mamie écrase les proutes. Il y a un tas d'auditeurs qui se souviennent de ça, puis un tas qui se souviennent pas. C'était Mammouth écrase les prix, évidemment, cette chaîne de grands magasins qui a disparu d'ailleurs, Mammouth. Mais enfin, ils n'ont pas écrasé que les proutes. Ils ont écrasé aussi ben les fournisseurs, les salariés de plus en plus précaires dans ces entreprises. Vous avez compris qu'aujourd'hui, on continue sur ce sujet de la grande distribution qui vous passionne à en juger par les messages que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37 avec Olivia Gesbert. On retourne à Limoges, pas tout à fait à Limoges, à côté de Limoges, à Fétia, où il y a eu un projet, il y a eu, on parle à l'imparfait, quoique on ne soit pas tout à fait sûr que ce soit, que l'affaire soit tout à fait gagnée, mais enfin il y a eu un projet d'implantation d'un grand centre casino, d'un géant casino, un centre de grande distribution. Et depuis 2002, ça fait 5 ans, un collectif s'est battu contre cette implantation et il semble ne pas avoir perdu, en tout cas pour l'instant. Et c'est ce combat, ce long combat qui nous a intéressé, qui vous intéresse aussi. Et puis, évidemment, toute la grande distribution que certains de nos interlocuteurs voient comme une dictature économique. Juste après, quelques messages encore parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis. 01 56 40 37 37.
Ouais, salut Daniel, c'est Romain à Limoges. C'était pour vous dire que j'ai trouvé pas mal ce que disait Dupont-Aignan ce matin. Et voilà, c'était aussi pour dire à vos journalistes que il n'y a pas d'idée de droite, il n'y a pas d'idée de gauche. La TVA sociale, bon, idée de gauche peut-être, je ne sais pas, mais il y a surtout des idées pour la France et il faudrait y penser, arrêter d'enfermer les gens dans des camps comme ça, de chaque côté, voilà. Bon, en tout cas, c'est bien ce qu'il a fait ce matin et voilà. Allez, à plus tard.
Allô, c'est pour rappeler que le repère du Pas-de-Calais à Monchy-Breton entre Saint-Paul-sur-Ternoise et Arras se réunit ce jeudi-là qui vient à 18h30. Nous parlerons de la cigarette, du tabac et des pommes de terre transgéniques qu'on va nous planter juste à côté. Donc jeudi 18h30, c'est à Monchy-Breton chez Tartous et compagnie. Allez, venez nombreux. Bonsoir.
L'essentiel, c'est de sourire. Hein. Comprenez ? Faut que les gens qui viennent faire leurs courses aient envie d'acheter. Hein ? Un supermarché ici. La musique, tout ça. Hein ? Que les gens soient bien. Comprenez ? Souriez, là, ouais. Mais faites un effort, souriez. Et c'est pas la peine. Allez. Dégage. Allez. Charlot.
Un centre commercial m'avait demandé de rester chez moi pendant mes jours de repos et mes heures de pause pour que je sois disponible au moment où s'ils avaient un souci, un manque de caissière. N'importe quand.
À n'importe quelle heure.
À n'importe quelle heure, donc j'avais refusé, j'avais pas été embauchée.
Pas la peine de venir pleurer pour du travail.
64 €.
Salut, c'est Daniel Mermel, ah ben si j'y suis, avec Olivia Gesbert, la guerre contre le casino.
Flight number 2, arriving from New York.
Waouh, ça continue ?
Oui,
waouh !
Et oui !
C'est aussi ça le programme mieux consommé.
Non mais alors ?
Quand on a commencé le débat nous, sur la grande distribution à Fethia, il n'y a pas eu un seul article qui est passé depuis... À part la première réunion qu'on a fait, il y a eu le blackout complet. On a contacté la journaliste qui avait fait l'article pour l'Écho, parce que c'est un journal local, et pour le Populaire, qui est le deuxième journal local. Ils avaient eu des consignes très précises, on ne passe plus d'articles. C'est-à-dire que le lobby de la grande distribution est très fort dans les journaux. Il faut voir que la publicité joue un rôle extrêmement important dans la vie de ces journaux. Le lobby financier, je dirais, en direction de nos amis élus, tout ça, etc., est aussi très très fort, qui fait que aujourd'hui la grande distribution, tout est bien. Il faut bien voir quand même que ce lobby est extrêmement puissant dès qu'on veut y faire face. Moi, je crois qu'il faut aussi beaucoup de courage pour décider de travailler autrement.
Casino, géant, Carrefour.
Monoprix. Auchan.
Leclerc.
Eh ben oui, voilà l'une des raisons pour lesquelles ce sujet et ce problème de la grande distribution n'est pas plus présent dans les esprits, n'est pas plus débattu, n'est pas plus tout simplement jugé comme scandaleux dans l'opinion. C'est qu'effectivement, la grande distribution est le premier annonceur en France et que, les médias ont besoin de ces annonceurs, notamment la presse écrite, notamment la presse locale qui vit grandement, je n'ai pas dit grassement, mais grandement de ces annonces de la grande distribution, des supermarchés locaux qui prennent des pages entières et qui ne vont pas, évidemment, ça ne va jamais sans contrepartie. On ne mord pas la main qui vous nourrit. Alors, voilà un point. Et puis, ce qui est valable pour la presse locale l'est également pour la presse nationale. On se souvient au moins de l'histoire de Marianne, l'hebdomadaire Marianne, qui a, pour avoir fait un dossier assez virulent, mais bien informé, sur la... Ce qui n'empêche pas les deux, hein, peut être à la fois bien informé et virulent. C'est même quand on est bien informé qu'on peut être virulent. S'était vu complètement tricard de pub en général et spécialement de la part de la grande distribution. Donc, pression de ce côté-là et autre pression sur les élus et les décideurs. Michel Charasse, qui n'est pas vraiment un gauchiste frénétique, mais qui pour autant combat la grande distribution dans ses formes les plus destructrices, raconte comment il a vu, lorsqu'il était maire, arriver dans son bureau, dans sa mairie, trois gars qui venaient le convaincre d'implanter une grande surface sur le territoire de sa commune et qui, à bout d'arguments, ont fini par sortir une grosse enveloppe pleine de gros pognons dans l'espoir de corrompre Michel Charasse, qui évidemment a refusé. C'est dire si cette corruption, alors je ne suis pas en train de dire que tous les élus et tous les décideurs politiques du pays sont autant de gens corrompus et pourris, loin de moi cette pensée, mais il y a d'autres formes de corruption qu'on avait vues en nous intéressant à la distribution de l'eau dans notre pays pour être élu et pour être réélu. Et bien, c'est quand même bien vu d'être d'offrir à ses compatriotes un stade, une équipe de basket, par exemple. Et il semblerait bien que ce soit ça qui soit passé à Limoges. Le casino aurait été généreux avec l'équipe de basket, voire même être carrément le sponsor de l'équipe de basket, et en contrepartie, eh bien, l'autorisation de l'implantation de ce géant casino aurait été facilitée. Mais ce n'est qu'une rumeur. Une rumeur que ce collectif a essayé de préciser parmi beaucoup d'autres, si bien qu'ils ont fini par obtenir gain de cause devant le tribunal administratif. Et pour l'instant, l'implantation de ce géant casino est suspendue dans l'attente du jugement en appel qui va intervenir dans les jours prochains. C'est toutes ces questions soulevées par cette grande distribution et aussi le combat de ce collectif qui nous intéresse aujourd'hui jusqu'à 16h dans la basse j'y suis.
Casino. Sourire suivant.
Ma vache à grosse. Ma vache à grosse. Est rentrée dans le pré pour la faire passer. Faut la pousser. Ma vache à grosse. Ma vache à grosse. Mes poulons grosses. Mes poulons grosses. Elles sont toutes éplumées. Quand elles sont toutes gonflées, les œufs sont tous écrasés par toute leur obésité. Mes poulons grosses. Aussi. Mon chien a grossi. Mon chien a grossi. Mon chien a grossi. Coincé dans sa niche. C'est belle pour la caniche. Mon chien a grossi.
Nous avons contribué au cours des débats politiques de ces derniers mois à essayer de casser une idée fausse, une idée reçue, une idée à la française selon laquelle la grande distribution, le distributeur, le commerçant serait l'ennemi héréditaire du producteur. Je regardais d'ailleurs une étude, les PME se disent à 82% satisfaites de leur relation avec les enseignes et reconnaissent à leurs acheteurs disponibilité, écoute, respect, professionnalisme, confiance, un monde idéal.
Ainsi s'exprimait il y a un peu de temps Renaud Dutreuil, le ministre des PME et du Commerce, une idée fausse, une idée reçue, une idée à la française. Et bien, c'est cette idée-là qui nous intéresse, cette idée à la française, c'est-à-dire une idée fausse et reçue, à savoir que la grande distribution pose quand même dans notre pays pas mal de petits problèmes. Everyday low cost, c'est la devise de Walmart, le géant américain de la grande distribution qui chaque jour reçoit 150 millions de clients aux États-Unis. Everyday low cost, chaque jour moins cher, c'est aussi le principe et la devise de la grande distribution chez nous, de moins en moins cher, de moins en moins cher, de moins en moins cher. Mais à quel prix? À quel prix et qui paye le prix? Ben, on le sait bien, c'est pas la peine de faire des grandes études d'économie pour voir la tête des caissières dans un supermarché. Et on a tous dans nos relations quelqu'un qui a bossé dans ces univers assez impitoyables, qui fragilisent les emplois. Plus de la moitié des emplois sont des emplois qui ne sont pas des emplois à temps complet, qui sont, on l'a vu avec le témoignage hier de cette vendeuse, de cette hôtesse de caisse d'un grand magasin, d'une de ces grandes surfaces, les conditions de précarité, donc de soumission, la précarité conduit à la soumission, il est très difficile pour les salariés dans des conditions comme ça de s'organiser, et c'est un des aspects. Et puis il y a toute la pression sur les fournisseurs, sur les paysans, les agriculteurs, etc. Ce qui conduit évidemment les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, ces PME auxquels ce ministre s'adresse, à délocaliser et donc à supprimer des emplois dans notre bel hexagone. La plupart, presque la totalité des produits hors alimentaires vendus dans les grandes surfaces sont d'origine étrangère, sont fabriqués à l'étranger, hormis l'alimentaire. Donc on voit, c'est qu'un aperçu de certains dégâts. Alors il y a ceux qui résistent dans cette région de résistance. Le Limousin, c'est une vieille tradition, c'est une culture locale de résistance, rouge longtemps, puis rose, mais un rose assez foncé quand même encore dans certains coins. Et puis voilà comment ça se passe chez Maryse Célérier, éleveuse de vaches sur le plateau, 2000 vaches à Émoutiers.
Oui, mais me saute pas dessus.
Mets-toi un peu en retrait le temps qu'elle rentre.
Elle rentre.
Alors, qu'est-ce que vous attendez? Enlève au lait sa tête deux fois par jour. Matin et soir, quoi qu'il arrive.
Ben, elle fait comme tout le temps.
C'est-à-dire?
Eh ben, elle donne à manger aux vaches, après elle ferme et puis elle lâche les veaux. Et après elle surveille les veaux en faisant la litière des veaux.
Dis-moi comment tu t'appelles?
Théo.
C'est un boulot difficile quand même pour une femme, tu crois pas?
Bon, ouais, ça dépend de...
De la femme?
Si on a toujours fait...
Ce qui est drôle, c'est que ta mère, en plus, c'est une toute petite bonne femme, toute fine. C'est pas la fermière robuste hein, non plus. Hein. Et en fait... Elle cache bien ses muscles. Hein.
Il y a 9 vaches, dont une normande et une croisée. Et il y a 6 veaux. Mais celui-là, là, le plus gros, il tète 3 vaches la plupart du temps. Hein. Il va avoir 3 mois. Et d'ici une quinzaine de jours, il sera bon pour l'abattoir. Et ça fera du bon veau de lait sous la mer. Voilà.
Ah là, toute la famille qui s'active, non, il est 8h, ça sent le fumier. Tu sais parler au veau, toi?
Non, non.
Ça fait comment, un veau?
Moi, je le fais pas bien, mais elle le fait bien.
C'est pas mal.
Moi, j'ai toujours voulu faire ça, ouais. C'était peut-être aussi un défi pour contrecarrer le mauvais sort qui a voulu que mon père disparaisse quand j'avais 9 ans. Et on avait dit que cette ferme où il n'y avait que des femmes, c'était fini. Alors, ça doit être mon côté féministe qui est ressorti très jeune. Voilà.
T'as jamais regretté?
Ah non, je sais pertinemment que c'est un petit peu pareil partout, donc je ne me fais pas de fausses illusions sur les lumières de la ville. Ça fait 23 ans que je vais être installée, donc c'est une ferme qui tourne. J'ai pas eu de gros projets d'investissement, donc ça s'équilibre, les choses s'équilibrent à peu près. Je pense que quelquefois, des exploitations plus grosses, qui ont été plus gourmandes en investissement, sont des fois plus fragiles.
Alors là, par exemple, il y a un gros casino là en face. Vous êtes juste à côté. Pourquoi vous ne pouvez pas faire distribuer votre viande directement dans ce casino? Pourquoi vous n'allez pas les voir pour leur demander de distribuer votre viande?
Ils ont d'autres circuits de commercialisation. Leur centrale d'achat, elle est à côté de Saint-Étienne. Et moi, régulièrement, je regarde les étiquettes de provenance. Ça ne vient pas du tout d'ici, quoi. Non, eux, ils ne se posent même pas la question de la proximité de l'abattoir et de la présence des éleveurs, quoi. Casino en particulier, eux, c'est le dernier de leurs soucis. On avait rencontré également les gens de Carrefour, qui étaient intéressés par uniquement les bons morceaux de la vache. C'est-à-dire la cuisse, la loyau, chose évidemment qu'on vend tout le temps, quoi, mais qui nous laissait sur les bras les avants, les côtes, les plats de côtes, qu'il faut cuisiner, quoi. Donc effectivement, ces gens-là, vu leurs exigences, nous on pouvait pas leur répondre parce qu'on pouvait pas laisser tout le reste de la viande, on pouvait pas mettre tout le reste à la poubelle. Et donc, ils sont allés s'approvisionner, je suppose, au Brésil ou en Argentine, où là-bas, ça pose aucun problème de ne vendre en Europe que les loyaux et les bons morceaux. Vu leurs exigences de quantité, de toute façon, il faut des structures de la taille des groupements de producteurs pour faire face, quoi. Et je pense que même eux ont des fois la difficulté d'approvisionner régulièrement. Voilà. Je vais regarder la Normande s'il lui reste du lait parce que faut absolument qu'elle soit prête à fond, elle. Allez, sois mignonne. Bouge pas, cocotte. Allez, ils ont tout bu. On n'aura même pas pour le petit déjeuner, hein.
C'est tout. C'est ce qu'on fait pour le matin, le petit déjeuner.
Juste assez pour toi pour que tu goûtes.
C'est vachement bon, chaud. Vas-y.
C'est différent, hein.
Oh, Papy Boule, comment tu fais pour les appeler, les poules?
Ah, comment je fais pour les poules? Je fais tu 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 tu, croche 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 croche, tu 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 tu. Et les poules, elles arrivent toutes.
Ah ouais, ah ouais, elles arrivent.
Puis comme elle sortait toujours dehors, de la cour...
Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Quand on le m'énerve trop, on sent un coup de pied derrière. Et ben, un coup de pied au cul, hein.
Pour femme de lune.
Voilà. Évidemment, les choses vont pas s'arrêter ce soir. Avec le Forum Social, avec Attac, avec les Amis de la Terre. Ce sont des combats qui vont continuer, en particulier sur la grande distribution et sur l'organisation des autres circuits de commercialisation des produits agricoles. Il faut qu'on reste convaincu du bien fondé de notre projet et du bien fondé de nos actions. Il ne faut pas baisser les bras. Voilà, ce n'est qu'un passage et on continue à y croire. Voilà.
On y croit.
Ils y croient, mais ils n'ont pas trop le moral ce soir-là, les militants de la Confédération paysanne, au vu des résultats des élections à la Chambre d'agriculture, c'est pas brillant pour la Confédération paysanne, mais bon, ben voilà, le combat continue, comme on dit, et le combat, ben, c'est celui qu'ils ont entrepris avec d'autres, pas seuls du tout, depuis 2002. contre cette implantation de ce géant casino de 20 000 m2 dans la banlieue de Limoges, à Fétia, 6 km au sud-est de Limoges, en bordure de la 20. Et casino promettait la création de 350 emplois. Alors, c'est difficile de résister à une telle promesse, sauf si l'on se fie aux statistiques et aux déclarations et aux expertises et aux rapports, notamment ceux de la Chambre de commerce de Paris, qui affirme que pour un emploi créé lors de l'implantation d'un hypermarché comme celui-là, pour un emploi créé, c'est 5 emplois détruits. Et là non plus, c'est pas la peine d'être un grand expert pour comprendre qu'évidemment, la création d'un tel lieu fait que le commerce de centre-ville, les petits commerces de centre-ville, s'anémie, se dévitalise, et donc disparition d'emplois, et également chez les fournisseurs, les petits paysans, les petites entreprises, les petites coopératives, etc., locales, c'est-à-dire tout le tissu à la fois économique et social de la région s'en trouve d'autant appauvri, et donc appauvri aussi bien sur le plan social, culturel, que tout simplement au niveau de l'emploi. Donc là, on est avec ceux de la Confédération Paysanne et ceux de ce collectif qui se sont battus et qui essayent ce soir-là de se remonter le moral.
Ce soir, résultat des élections à la Chambre d'agriculture. Est-ce que ce soir ici, il y a plusieurs des personnes qui étaient impliquées dans le combat contre la grande distribution, contre le géant casino à Fétia ?
Oui, incontestablement, ce soir, dans tel qu'on est, il y a un paquet de gens qui sont en butte, pas seulement avec géant casino proprement dit, mais qui sont en butte avec ces circuits longs qu'on veut essayer de leur imposer, avec ce style d'agriculture qu'on veut leur imposer. Pendant 2 ans, on a travaillé avec beaucoup de gens qui sont ici. On a créé des liens, je dirais, extrêmement étroits entre toute une série d'associations et entre toute une série de paysans sur des objectifs communs. Et ces objectifs communs, quels que soient les résultats, ils demeurent. Mais c'est vrai que la bataille pour le casino de Fétia a été un des premiers éléments fédérateurs, je dirais, dans le département, qui nous a rassemblés. Après, il y a eu les OGM, après, il y a eu pour faire sortir l'agriculture de l'OMC. Il y a eu une marche qui est partie du Mont-Gargan à Limoges, donc 54 km de marche à pied. Je crois qu'il y a tout un tas de formes qu'on cherche, oui, parce qu'on rêve d'un Limousin différent.
Alors, je vais aller voir deux personnes dont vous m'avez parlé, qui sont Philippe Babaudou, qui a parlé tout à l'heure, donc qui est un des responsables de la Confédération Paysanne sur le département, même dans la région, et puis un de ses collègues qui s'appelle Thierry Gamon. Et ensemble, ils ont fondé une coopérative, une sorte de regroupement pour vendre leurs produits en vente directe, et ça s'appelle Saveur Fermière. Vous faites quoi, Thierry Gamon ?
Moi, je suis maraîcher éleveur à Vannes-sur-Vienne, à côté de Limoges.
Vous avez travaillé, vous avez revendu certains de vos produits à la grande distribution. Vous avez été un moment dans ces circuits longs.
Oui, moi, j'ai travaillé 10 ans avec eux, où j'ai fait des volumes. Et à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on a comme récompense ? Uniquement de remettre des ristournes. Les ristournes, c'est à l'époque, c'était jusqu'à 6% des chiffres d'affaires. Et qu'il fallait leur redonner, plus des palettes gratuites. Et au bout de 10 ans, on fait un point et on se dit pourquoi travailler autant de volume ? Vaut mieux passer un peu moins de volume et travailler en direct. À l'époque, là, je parlais en francs, mais ils m'achetaient le poireau 4 francs et ils le revendaient 6,77 francs. À l'époque, en francs, quoi. Et je dis sur ça, il fallait remettre 6% des chiffres d'affaires en fin d'année. Profit.
Un profit qui profite au consommateur ? À l'acheteur ?
Non, pas au consommateur. À celui qui est en haut de la chaîne. Le consommateur, c'est un pion. Tout ce qui l'intéresse dans le consommateur, c'est sa carte bancaire. Il ne faut pas trop mettre la main dans l'engrenage, quoi. On commence par le doigt, après c'est la main, après c'est le bras, quoi. Moi, je pense que je me suis arrêté au doigt. Donc, c'était assez facile de me retirer. Mais il faut préparer son départ avec ces gens-là.
Perdre le doigt, ça veut dire quoi ? C'est que vous vendiez à perte, parfois ?
Ah oui, mais ça, c'était plus souvent. Ah oui, c'était très souvent qu'on vendait à perte, hein. Ah oui, très souvent. Hein. De toute façon, moi, j'aurais pas réagi. Je mettais mon exploitation en péril très rapidement. Hein. Eux, ça les dérange pas de perdre un agriculteur. Hein. Ils en perdent un, ils en retrouvent deux. Hein. Les chefs de rayon et on est consignes strictes, broyés du fournisseur. Et je parle pour moi et pour les producteurs en légumes, mais dans tous les domaines, c'est comme ça. Tout. C'est une machine, c'est une mentalité déplorable. Le profit.
Casino. Sourire suivant.
La preuve.
C'est vrai que c'est un modèle de société, c'est une logique dans laquelle on veut nous entraîner au nom d'une certaine mondialisation, on n'y pourrait rien, c'est comme ça, c'est un peu comme le progrès que... Non, ce sont des gens qui décident que ça sera comme ça, je dirais, il peut y avoir une autre conception de vie, plus régionale, plus relocalisée, et ce style de société, il n'est pas choisi, quoi. Les gens le leur imposent.
C'est une vie dans les marques, une vie dans les logos. Hein. C'est incroyable, là, quand on est dans ta voiture, Eric, en roulant vers un contre-modèle, d'ailleurs, hein, puisqu'on va vers la boutique de Saveur Fermière, qui est là un système de vente directe des produits par les agriculteurs, les producteurs eux-mêmes, directement aux clients. On voit toutes ces affiches McDonald's à gauche, Leclerc à droite, on a toutes ces publicités qui clignotent et qui attirent. Et on est vraiment, ça c'est la pollution visuelle, dit Eric, on est dans un système où aussi visuellement tout ça se banalise, quoi.
Et je trouve qu'il y a un appauvrissement complet, je dirais, de l'offre, alors qu'on semble envahi par l'offre, et on se rend compte en fin de compte que cette offre, eh bien, elle est totalement répétitive.
Alors là, on est devant l'enseigne de Saveur Fermière qui fait face à deux services publics en perdition, La Poste et France Télécom. Alors là, Thierry, on s'est vu hier pour le dîner de la Confédération Paysanne. Et là, on est dans votre petite entreprise. En fait, Thierry, vous essayez d'avoir un peu tout. Fromage, jus de fruits, produits frais...
Et ben nous, on commercialise le maximum de produits qui peuvent se produire dans la région avec une origine des produits assez stricte et surtout des légumes de saison, fruits et légumes de saison.
Les pommes, par exemple, elles ne correspondent pas aux normes de la grande distribution. Pour vendre des pommes à la grande distribution, il faudrait qu'elles soient toutes calibrées de la même manière.
Qu'elles n'aient pas de trous, surtout. Hein.
Tu vois, puis qu'il n'y ait pas de trous. Bon, voilà, elles sont belles, elles sont magnifiques. Mais bon, il y en a des petites, il y en a des grosses, il y en a des... Et ce sont des pommes, des variétés qu'on ne trouve plus en grande distribution, qui sont en train de disparaître. On ne fait de la publicité que pour la golden du Limousin. Donc c'est...
1,50€ le kilo.
Elles sont à un prix, 1,50€ le kilo. N'importe qui peut aller regarder dans la grande surface au moment où on parle, c'est à peu près le prix de la pomme qu'on trouve, donc elles ne sont pas plus chères. On sait exactement ce qu'on mange quand on vient ici acheter.
Voilà, alors évidemment, on n'est pas en train de faire là, avec cette émission, une défense du consommateur. La défense du consommateur, c'est une façon d'acquiescer et d'entériner cette société de consommation. Après tout, la société de consommation, c'est un phénomène récent qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Sur le temps long de l'histoire, c'est extrêmement, extrêmement récent. C'est un phénomène économique, mais aussi politique, mais aussi idéologique. C'est en partie une affaire de choix, comme dans chaque époque historique. Il y a une part de subi, il y a une part de choisi, il y a une part de hasard et de fatalité, puis il y a une part aussi de choix idéologique. Et rien ne nous astreint, rien ne nous empêche de changer tout ça si on le veut. Il n'y a aucune fatalité dans cette forme de société. On peut peut-être réfléchir à cela avant que, comme disait l'autre, le ciel ne nous tombe sur la tête.
Moi, je trouve que c'est sympa aussi, les petits magasins. Donc, je suis pas spécialement un fanatique des grands magasins. Hein, donc, parce que de toute façon, au niveau prix, finalement, bien souvent, on s'y retrouve aussi. Hein.
C'est pas plus cher ici?
Pas forcément plus cher. Des fois, bien souvent, dans les fruits et légumes, dans les grandes surfaces, quand vous rentrez chez vous, des fois, vous en jetez parce qu'autant que vous en avez acheté. Hein, donc, faut voir après à la finalité si on s'y retrouve ou pas. Hein.
Alors là, j'ai l'impression qu'on ne trouve pas de tomates.
Ben, on trouve les produits du moment. Ça n'arrive pas forcément d'Australie. Ou de... Là, c'est plutôt ce qui se fait dans la région. Quoi. Non, je pense qu'on y revient, mais c'est normal. Hein. De toute façon, c'est des cycles. Hein. Au bout d'un certain nombre d'années, on s'aperçoit de ce que ça a apporté et de ce que ça a des côtés néfastes. Il faut bien reconnaître une chose, c'est que, entre autres, les années 70 jusqu'à, je dirais, 90, l'industrie agroalimentaire, c'était beaucoup de pesticides, beaucoup d'insecticides ou autres. Je pense qu'on revient vers des valeurs un peu plus raisonnables. Hein.
Ben, ça vous fera 29,94€ pour un riz, deux boîtes de cacao, une grosse taupe de brebis, un kiwi bio, des noix en vrac, du porc, du bœuf, du veau de lait, du canard et des poires. Vous en tirez pas trop mal, hein?
Voilà, et c'est diversifié aussi.
Voilà le panier de la ménagère, hein. Du ménager.
Oui, merci.
Vous avez un panier?
Pardon.
Non, bonne journée. Moi, je suis salarié boucher à Saveur Fermière. Moi qui ai travaillé dans la grande distribution, bon, c'est un esprit, on va dire, plus familial. Déjà, de travailler avec des producteurs. Enfin, moi, je sors quand même du milieu de la campagne, et bon, de parents agriculteurs. Donc, bon, là, je me retrouve plus sur mon domaine, quoi. Je gagne, on va dire, mieux ma vie. Et pour, en niveau temps de travail, bon, c'est vraiment plus relax. Et bon, le travail se fait quand même. Hein. Donc, voilà, il y a moins de pression, disons. Cette pression, c'est les chiffres et les chiffres. Tous les jours, ça ne va jamais, quoi. Même si vous avez un chiffre, on va dire, correct, pour un patron ou un directeur, ça va jamais, quoi. Parce que, bon, l'argent appelle l'argent. Et ça, c'est vieux comme...
En fait, vous, en tant que salarié boucher, vous n'êtes pas que là pour servir. On vous demande explicitement de faire du chiffre.
Oui, de faire du chiffre, hein.
Vous avez une commission au passage quand vous faites du chiffre ?
Ça dépend. C'est à la négociation, ça, du salaire, ça, à l'origine. Hein. Bon, la personne qui n'a pas de tempérament, qui n'ose pas, de toute façon, n'aura jamais une prime d'intéressement ou une prime sur sa marge ou une prime, quoi.
Ça, c'est quoi à peu près un salaire ? C'était quoi à peu près votre salaire dans la grande distribution ?
Moi, j'étais maîtrise. Hein. Donc, j'avais 9000 francs net et après, j'avais les primes sur la marge. Donc, c'était 1500 francs à l'époque. Hein. Et donc, à côté de ça, bon, c'est tout ce qu'il y avait, quoi. Mais c'était énormément d'heures, c'était 65 heures, et bon, les heures pas forcément récupérées, quoi, donc voilà.
C'est ça, 1600, 1700 euros net, avec la prime d'intéressement.
Oui, c'est ça, oui.
Vous qui avez travaillé dans les deux types de circuits, finalement, oui. C'est beaucoup plus cher, ici ?
Non, c'est pas plus cher, c'est pas plus cher qu'en grande distribution ou ailleurs. Hein. De toute façon, moi j'ai fait des relevés de prix.
Les grandes surfaces nous disent tout le temps qu'elles cassent les prix.
Oui, façon de parler quoi. De toute façon, faut comparer ce qui est comparable parce que bon, souvent vous prenez l'exemple du veau libre service par exemple, c'est beaucoup un veau de batterie. On peut pas appeler ça veau fermier en fait. Donc le prix pour moi est kiff-kiff alors que bon, en libre-service enfin, chez eux devrait être moins cher et c'est du veau de batterie et je suis pas d'accord là.
Alors pourquoi c'est pas vraiment moins cher?
Pourquoi? Parce qu'il y a des grands qui sont au-dessus de tout et puis qui empochent les marges. Oui, j'ai fait juste une expérience une fois sur un du veau que j'avais pris chez mon beau-père qui est producteur fermier en Corrèze. Donc il me manquait de la blanquette. Donc bon, j'étais me dépanner en grande distribution, a pris un appoint de blanquette. On a tout de suite vu la différence. Donc bon, ça rendait de l'eau. Enfin, c'était pas bon. C'est de la batterie, quoi. Donc mélanger de la batterie avec du fermier, ça fait pas bon ménage, quoi.
La vie,
Leclerc,
la vraie,
Carrefour,
Auchan.
La preuve.
Géant Leclerc.
Avec Carrefour. Géant.
Casino. Carrefour. Sourire suivant.
Alors, l'un de ceux qui a le plus sensibilisé, sans doute, qui a contribué en tout cas à la sensibilisation de l'opinion sur la grande distribution, c'est Christian Jacquiot, qu'on a déjà rencontré hier au cours de ce reportage d'Olivia Jesper. Et on le retrouve aujourd'hui parce qu'on se dit, oh oui, d'accord, bah, c'est Limoges, bah oui, mais dans ce coin-là, c'est toujours avec eux, alors là. Oui, oui, mais c'est pas seulement, c'est pas tout à fait le seul endroit. Il y a quand même d'autres endroits où ça conteste et ça proteste contre cet état de choses.
Est-ce que tous ces combats, le combat de Fethia, je crois qu'il y a d'autres combats qui ont lieu en ce moment aujourd'hui, un combat près de Cannes contre la construction d'un Ikea, un combat près de Toulouse aussi contre la construction d'un hypermarché, je ne sais pas, vous en connaissez d'autres, ça a fait boule de neige un peu Fethia, hein?
Oui, oui, bien sûr, il y a eu Fethia, il y a eu aussi Moucron en Belgique, où effectivement un groupe de consommateurs, de citoyens, d'écologistes aussi, de riverains en fait, a empêché l'implantation d'un énorme CORA, puisque là c'est un 115 000 m² dans la plaine de Coutron, une plaine agricole très fertile, tout près de la frontière française, et du coup il y a une telle levée de boucliers que finalement ce projet n'aura pas lieu. On a des projets un peu partout, véritablement des gens en tout cas qui se battent contre ces implantations.
Alors est-ce que tous ces combats menés par des collectifs, des militants, des habitants, est-ce que ça a permis une prise de conscience? Est-ce que vous avez le sentiment que la tendance est à moins ou à plus de mètres carrés aujourd'hui en France? Sachant que je crois qu'en France, on tient déjà la palme en termes de mètres carrés d'hyper et de supermarché.
On est effectivement, nous Français, les champions du monde en termes de maillage du territoire. Il n'y a pas un pays au monde qui a autant de mètres carrés par habitant que la France. Alors prise de conscience, oui et non, j'allais dire, s'il y a une véritable prise de conscience, je crois, de la part des citoyens, puisqu'on voit de plus en plus de mouvement de gens qui s'opposent à l'implantation de toute nouvelle grande surface. Ça, c'est évident. En revanche, aucune, à mon avis, prise de conscience du côté politique, puisqu'on voit au contraire qu'on est en train de libéraliser. En 2005, on a autorisé 3 500 000 m² de grande surface en plus. En 2006, plus de 3 700 000 m². Je crois qu'on est vraiment dans une dérive totale et on est en train d'en implanter partout, avec toutes les conséquences qu'on imagine.
Casino, géant, Carrefour, Monoprix,
Auchan,
Leclerc.
Bon, alors il faudrait peut-être faire entendre d'autres sons de cloche, mademoiselle Olivia Jesper. Et voilà qui va être fait en écoutant Jean-Paul Delanno, Parti Socialiste, président du Conseil Régional du Limousin, ancien maire de Fethia, et c'est lui qui a négocié la venue de Casino dans sa commune. Et il s'explique.
Écoutez, que maire veuille accueillir une activité économique n'étonnera personne. Ce qu'il faut dire quand même sur le projet en question, c'est que il s'agit d'une évolution de la grande distribution sur une organisation de vente très différente de ce qu'elle était par le passé, en offrant un lieu de vie et non plus seulement un lieu de vente. Je crois que ça c'est important et c'était ça aussi qui m'intéressait dans le projet. Il s'agit plus d'une organisation sociale que d'un commerce strict. Il s'agit d'un nouveau concept, un concept que j'ai pu visiter d'ailleurs à l'initiative du groupe à Nîmes, avec toute une organisation qui est une sorte de ville dans la ville et qui effectivement correspond aujourd'hui aux besoins de consommation des gens. Et c'est pas moi qui décide d'aller dans tel ou tel type de magasin. Je crois qu'effectivement chaque consommateur à la liberté d'aller où il veut. Lorsqu'il a du temps et lorsqu'il a envie de lécher les vitrines, ben il va là où il y a des vitrines à lécher. Lorsqu'il n'a pas le temps, il va dans une petite surface, dans un petit magasin, pour faire ses achats, avec l'idée de cible directe sur l'achat qui est le sien.
Quand il a le temps et quand il a le choix, qu'est-ce que ça peut rapporter à un élu de permettre l'autorisation sur sa commune d'une grande surface? Est-ce que ça peut rapporter des bénéfices financiers? Je lisais dans un article 1 million d'euros, c'est ce que perdrait l'agglomération de Limoges en taxes professionnelles si le projet Casino tombait définitivement à l'eau. C'est à peu près ça?
Oui, c'est à peu près ça, mais il s'agit bien effectivement de l'agglomération de Limoges.
Et en termes de bénéfices symboliques, qu'est-ce que ça peut rapporter à un élu?
Ben, en termes de bénéfices symboliques, il n'y a pas d'apport particulier. Je crois que c'est le rôle des élus de se préoccuper des besoins de leurs concitoyens.
Évidemment. Et je le rappelle, cette affaire quand même du... Du club de basket de Limoges CSP, c'est revenu quand même assez souvent dans les propos qui nous ont été rapportés et tenus, mais c'est des mauvaises langues bien évidemment, mais enfin il y aurait comme une espèce de petit renvoi d'ascenseur entre Géant Casino, généreux sponsor du club de basket Limoges CSP et les décideurs politiques locaux. Alors où on en est aujourd'hui ? Ah, voilà une bonne question. On a compris que comment dans une première audience, le tribunal administratif a donné gain de cause aux contestataires, à ce collectif. L'affaire est en appel aujourd'hui et Yves Tricard nous donne toutes les précisions sur l'état actuel de ce long combat.
Est-ce qu'il y a eu des moments de solitude dans ces quelques années de combat ? Il y a eu des moments où vous vous êtes dit on n'y arrivera jamais, c'est trop gros ce qu'on a en face ?
Non, je crois que les combats perdus, ce sont les combats qu'on ne mène pas. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, quelqu'un dise « bon, ben, ça suffit, on arrête ». Et puis, on voit que quand même, avec des moments, des hauts et des bas, bien sûr, et on voit que ça avance petit à petit, on voit que les gens se posent des questions. Et je suis certain que même on aurait perdu au tribunal, on perdrait en appel, il n'en reste pas moins vrai que l'état d'esprit des gens aujourd'hui n'est pas le même que celui qu'il y avait hier.
Et alors je parle de combat emblématique justement parce que ce combat-là, vous l'avez gagné. C'était en 2004, devant le tribunal administratif de Limoges. Il a été décidé que ce casino ne s'implanterait pas à Fethia.
Ce que je trouve intéressant dans le volet judiciaire, ils ont essayé de présenter le point maximum. Ça va créer 350 emplois. Et je crois qu'on a réussi à faire la démonstration, c'est que pour ces 350 emplois qui allaient être créés, ce sont d'autres emplois qui vont disparaître. Les chiffres qui sont avancés, c'est que pour un emploi créé en grande surface, c'est entre 3 à 5 emplois qui va disparaître, je dirais, ailleurs. Et Casino a été incapable de faire la démonstration au tribunal qu'ils étaient plus producteurs d'emplois que plus destructeurs. Et le tribunal a retenu qu'ils étaient plus destructeurs d'emplois.
La ville, Leclerc, la vraie. Carrefour. Auchan, la preuve.
Géant Leclerc.
Avec Carrefour. Géant.
Casino. Carrefour. Sourire suivant.
Qui demande aux consommateurs ce qu'ils pensent de la consommation ?
Le consommateur, oui, mais pas seulement le consommateur. Il y a aussi ceux qui fabriquent, ceux qui vendent, toute la chaîne, tous les partenaires et tous les rouages de ce processus de la grande distribution. Ce qui a passionné Christian Jacquiot, qui tire quelques conclusions tout à fait provisoires sur ce sujet.
Alors là, on est en pleine campagne électorale pour la présidentielle, mais aussi les législatives ensuite. Est-ce qu'il y a un candidat de la grande distribution ?
Non, je crois qu'il n'y a pas de candidat de la grande distribution. Je crois qu'ils sont tous candidats de la grande distribution, très clairement. Je crois qu'aujourd'hui, quelles que soient les couleurs du Parti Socialiste, de l'UDF, de l'UMP ou autre, et du Parti Communiste, eh bien, on a de gros projets un peu partout, sachant que, de leur côté, les hypermarchés savent distribuer ce qu'il faut, comme il faut, à qui le demande. Donc je crois que là-dessus, il n'y a pas, malheureusement, pas de projet. Alors que finalement, quand nos politiques, et ça me paraît extrêmement important, quand nos politiques nous disent, eh bien, on va maintenir une vie dans les villages, quand ils nous disent on va maintenir les services publics, quand on va maintenir des droits sociaux, etc., la santé, la retraite pour tout le monde, les universités et le reste, on sait très bien que c'est un mensonge, puisqu'aujourd'hui cette machine qui avance détruit toujours plus, que demain nous aurons encore moins de cotisations patronales, salariales et d'impôts levées du fait de la disparition des emplois qu'entraîne l'implantation de nouvelles grandes surfaces, ce qui veut dire que si on ne s'attaque pas aux racines du mal, cette machine, cette espèce d'arme de destruction massive qui avance vers la société véritablement, c'est un véritable rouleau compresseur, eh bien on ne pourra pas tenir les promesses que l'on fait, quelle que soit la couleur politique.
Et le plus troublant, c'est que les promesses que nous font la grande distribution, c'est pas simplement de nous créer des lieux d'achat, c'est aujourd'hui de créer des vrais espaces de vie. C'est plus simplement c'est un vrai projet de société derrière.
Ah mais tout à fait, parce qu'il faut des arguments pour nous convaincre, nous consommateurs. On va aussi proposer à nos élus d'offrir en parallèle des services. C'est-à-dire qu'on va vous dire, voilà, sur votre commune, vous n'avez pas de piscine, ou vous n'avez pas de patinoire, ou peut-être pas de bibliothèque, eh bien on vous offre la construction d'une piscine, d'une patinoire, ou que sais-je encore, un espace pour les jeunes, un terrain de foot, peu importe. Et l'élu qui souvent n'a pas su bien gérer, ou en tout cas n'a pas eu les moyens d'offrir à ses administrés ses services, mais finalement se voit offrir des services qu'il pourra valoriser à l'égard des citoyens. Donc je crois qu'on est dans cette logique-là.
Le but final étant la consommation.
Le but final étant de nous amener à passer le plus de temps possible dans la galerie commerciale pour consommer toujours plus.
Et
de penser, bien entendu, et ne surtout pas réfléchir, puisque pendant qu'on pousse le caddie, on ne pense pas à autre chose. Ce qui nous renvoie aussi au projet des politiques, c'est qu'on voit que tous nos politiques nous parlent de relance de la croissance, qui veut dire toujours plus de consommation. C'est une folie, mais tout repose là-dessus. On ne revoit pas le mode de consommation, le mode de fonctionnement de la société. Il faut consommer toujours plus, ce qui explique d'ailleurs peut-être pourquoi on autorise toujours plus l'implantation de grandes surfaces.
Jacques, je rappelle police de la grande distribution. À Yvan Tricard, Marie Célérier et sa famille, Philippe Babaudou, Thierry Gamon, Michel Delande, Jean-Paul Denano, ainsi que Nicolas Jaillard pour son excellente enquête Les Petites Combines de la Grande Distribution, diffusée sur Canal+, dans l'émission Lundi Investigation. C'était un reportage d'Olivia Gesbert. Toutes les informations sont disponibles sur le site de franceinter.com à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission ainsi que sur le site la-ba.org. La-ba.org. À la technique aujourd'hui, Henri Bérec et Dimitris Capolan, c'est Yann Chouquet et Koye Nguyen qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Charlotte Perry. Christophe Imbert se tient près du répondeur avec ses grandes oreilles et attend vos messages au 01 56 40 37 37. Le site de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com et il y a, figurez-vous, chance, 30 secondes de pub.